C'est un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 13e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur tarn-et-garonnais de naissance et désormais francilien, Vincent Villa, dont le 4e roman ADN est paru le 7 septembre 2023 aux éditions du 123. Vincent, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio B.
Alors, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Auteur, ça me va bien. Écrivain, ça me semble un petit peu précieux encore. J'aurais de la modestie à côté. Voilà, auteur.
ce serait présomptueux?
Oui.
Alors bien, donc vous êtes un passionné de lecture et d'écriture depuis toujours. D'où vient cette passion, vous qui étiez, je cite, un goinfre de livres et qui adoriez écrire?
Les livres, je saurais pas vous expliquer. J'ai toujours aimé ça. J'ai eu une grosse période vers l'adolescence où je lisais de tout. Et au fond de moi, j'avais toujours cette envie à me dire un jour, il faudra que tu te mettes à écrire un livre. Bon, c'est venu tard. Il y a eu tout un ensemble de circonstances. J'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé jouer avec les mots. Je me suis toujours destiné à faire un métier qui me permettrait de manier les mots au quotidien, puisque je suis journaliste en presse écrite depuis 25 ans maintenant. C'est vraiment l'univers dans lequel je me sens le mieux.
Alors, côté lecture, vous étiez un touche-à-tout, puisque vous passiez aisément des classiques de la littérature française à ceux des romans policiers. J'imagine que vous étiez plus à l'aise en cours de français qu'en cours de mathématiques.
Ah oui, complètement. Moi, j'ai toujours été un littéraire. Les maths, je me forçais à travailler pour avoir un petit peu la moyenne, mais voilà. Les études de texte, lire les romans, tout ça, ça a toujours été agréable à faire pour moi. Ce n'était pas des devoirs, des choses comme ça.
Alors, l'écriture, vous en avez fait votre métier, hein, puisqu'après votre diplôme du centre de formation des journalistes, vous avez intégré France Football, puis l'équipe. Le sport et le football en particulier étaient votre autre passion?
Oui, complètement en fait. J'ai toujours aimé le sport. Et puis un jour, à l'âge de 13 ans, je suis parti au bureau de tabac, à la librairie de la ville où j'habitais. Puis je suis tombé par hasard sur l'équipe et France Football. Je savais que je voulais faire journaliste, je savais que j'aimais le sport, mais je n'avais jamais associé les deux. J'ai acheté les deux, j'ai dévoré les deux, et là je me suis dit ce jour-là, plus tard je travaillerai à l'équipe ou à France Football. Et finalement, j'ai eu le bonheur de travailler aux deux. Et quasiment ne travailler qu'aux deux, puisqu'à part un stage à la Voix du Nord et un stage au Figaro quand j'étais étudiant, j'ai fait toute ma vie professionnelle jusque-là dans ces deux journaux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir de concrétiser surtout des rêves d'enfants. Moi j'ai eu la chance d'en avoir concrétisé deux, puisque j'avais aussi 13-14 ans, je rêvais d'écrire des romans, donc je ne veux pas me plaindre là-dessus.
Alors, cela fait plus de 20 ans que vous êtes journaliste sportif. L'envie d'écrire est restée la même avec le temps?
L'envie d'écrire sur le sport ou l'envie d'écrire tout court?
Tout court.
Ah, tout court, oui, je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours. Par contre, je pense que ce qui m'a vraiment décidé à un moment à me relancer, on va dire, dans les romans, parce que j'avais fait une tentative au début des années 2000, j'avais fait un manuscrit, mais j'étais à moitié dans le feel good, à moitié dans le suspense, enfin, je ne m'étais pas trouvé. L'envie d'écrire, je l'ai toujours eu. Je pense qu'à un moment, c'est en partie une usure liée au fait d'écrire sur le sport qui a fait que... Et aussi l'âge, j'allais vers mes 45 ans, même si ce n'est pas un âge canonique, mais quand même, et c'est ça qui m'a décidé à retenter ma chance. Et puis à un moment, j'ai eu une espèce d'évidence, parce que j'avais toujours aimé la littérature à suspense, même si je remonte depuis tout petit. Ça peut faire rire, mais Fantomètre et le Club des Cinq, ça me plaisait quand j'étais gamin. Et dès qu'il y avait un mystère, en fait, j'aimais ce genre de lecture. Et à un moment, vers 2017, il y a eu une évidence. Tu vas écrire sur du polar, tu vas écrire sur du thriller. Et c'est de là que c'est parti, en fait. cette envie un petit peu d'écrire sur autre chose, de m'aérer de mon boulot, même si c'était un rêve de gosse. Il y a toujours une petite usure, en tout cas de mon côté, quel que soit le métier, je pense.
Ouais. Alors, quelles autrices et auteurs plus actuels qu'Agatha Christie, Mary Gink Clark et Maurice Leblanc vous ont aussi donné envie de passer à l'écriture de romans?
Je lisais beaucoup Maxime Chattam. Il n'y en a pas vraiment un en particulier. À un moment, ça a été un déclic. Je lisais aussi Bernard Minier. Et en fait, il a eu son premier succès avec Glacé un petit peu vers l'âge auquel je me suis remis à écrire pour de bon. Et je me suis dit, finalement, alors sans vouloir me comparer, hein, sans vouloir se dire si j'écris, j'aurai son succès, mais... Je me suis dit, après tout, il n'y a pas d'âge, on se lance. Et c'est vrai que je lisais Bernard Minier, il m'a un petit peu inspiré de ce côté-là. Sinon, j'ai pas vraiment d'influence ou de choses comme ça. Il y a des auteurs que j'aime lire. Et en ce moment, j'aime beaucoup Céline Danjean, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce que je fais aussi, c'est-à-dire les gens qui font du polar et du thriller sociétal, on va dire, où il y a un petit peu de profondeur dans les thèmes.
Alors, c'est plus facile de raconter des histoires que l'on crée soi-même que les histoires de celles et de ceux qui existent, comme les sportifs, par exemple.
Est-ce que c'est... disons que l'avantage du roman, c'est qu'on peut laisser libre cours à son imagination. Et même s'il y a beaucoup de choses qui doivent être vraies, évidemment, quand on s'appuie sur des procédures policières, judiciaires, etc., enfin, j'essaie au maximum d'avoir une rigueur de journaliste, mais en même temps, on peut écrire ce qu'on veut. Forcément, quand on est journaliste, on ne peut pas écrire toujours ce qu'on veut, soit parce que c'est faux, soit parce que c'est la vérité, mais qu'on ne peut pas l'écrire quand même. Là, au moins, c'est mon échappée, on va dire, voilà.
Alors, j'imagine qu'écrire un polar ne s'invente pas. Comment s'organise-t-on la première fois?
La première fois, alors, en fait, mon boulot a un petit peu évolué, mais à l'époque, c'est pas si vieux, on était en 2017 quand j'ai commencé à écrire. J'avais beaucoup de déplacements pour le travail. C'est un métier qui m'a fait découvrir des pays, des continents, j'ai beaucoup voyagé. Et l'avantage que j'ai étant journaliste sportif à l'équipe, c'est que j'écrivais il y a encore beaucoup au stade. Parfois, il y a 60 ou 80 000 personnes et on est obligé de se mettre dans une bulle pour pouvoir écrire. Et en fait, ça m'a créé une habitude qui fait que je peux écrire à peu près partout, dans les halls de gare, d'aéroports, dans les trains, dans les avions, même au stade, en attendant parfois un match. Donc, d'un coup, je me suis organisé en rentabilisant tout ce temps qui jusque-là était peut-être un petit peu un temps de flânerie ou de loisir, on va dire. Et de là, j'ai dégagé beaucoup d'heures. Et puis c'est vrai, je vais être honnête, j'ai un métier où j'ai quand même pas mal de vacances dans la boîte au nez. Donc ça me permet de faire deux métiers, on va dire. Et puis de temps en temps, je me lève à 5h du matin. Ça me permet de mettre un petit coup. Mais voilà, je ne suis pas à plaindre. Je pense qu'il y a des gens qui se mettent à écrire et qui ont beaucoup moins de confort au niveau horaire, en fait.
On a forcément toute l'histoire et tous les personnages en tête.
Les personnages, oui. Alors après, en fait, la première fois que j'ai écrit, j'ai voulu être très scolaire. C'est un petit peu mon caractère quand j'étais étudiant ou lycéen. Et ça m'a vite barbé, en fait. J'ai un point de départ, du coup. J'ai un point d'arrivée, il faut absolument que j'ai une chute qui me satisfasse complètement. Et entre les deux, en fait, c'est pas que j'écris au feeling, mais les chemins se font un petit peu à l'inspiration quand même. Et les personnages, si j'ai tous mes personnages au départ, cet aspect très évolutif, et assez souple en fait, fait que parfois, sans être manichéen, mais je peux avoir un méchant, entre guillemets, qui devient un bon au fil de l'invention, au fil des pages que j'en fais, en fait. J'ai discuté quand même, j'ai échangé avec quelques auteurs depuis maintenant 2 ans, puisque j'ai eu la chance de faire pas mal de salons spécialisés. Et je vois qu'on est pas mal à faire comme ça, quand même. Limite, certains à pas savoir la fin quand ils commencent à écrire. Bon, moi, ça m'embêterait quand même. Et pour tout le reste, oui... Plutôt une grande souplesse.
Alors, votre premier roman, Je mangerai ton cœur, a eu des débuts confidentiels avant d'être édité par les éditions du 123. Alors, peut-on dire qu'il a eu deux vies, trois, avec la sortie le 20 mars 2024 en poche?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, je vais être honnête, hein, c'est un conte de fées pour moi ce qui s'est passé avec Je mangerai ton cœur. Parce qu'en fait, j'ai été refusé par pas mal d'éditeurs. Enfin, j'ai été refusé, je peux même pas dire j'ai été refusé, parce que la plupart des éditeurs, je n'ai même pas reçu la lettre de refus. Donc du coup, il faut savoir que moi, quand je commence à écrire, je suis dans ma bulle, mais alors je suis loin de tout ce qui est blog, de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui se fait un peu sur Internet. J'écris mon bouquin, je l'envoie de façon classique à des maisons d'édition, j'ai des refus. Et là, c'est un jour quelqu'un que je connais, mais vraiment de très loin, dans le milieu du foot, qui me dit, mais pourquoi tu ne le mets pas sur Amazon? Je fais, ah bon, ok. Et là, je découvre qu'en gros, n'importe qui peut balancer son bouquin sur Amazon sans limite de vérification. Enfin, je sais qu'il y a des algorithmes, mais bon. Et donc, je l'ai mis sur Amazon, j'étais tout content, j'ai dû vendre 60 exemplaires en 6 mois, mais j'avais la foi, et puis j'avais commencé déjà à écrire le deuxième. Et puis un jour, ça fait au moins 6 mois, je l'ai mis sur Amazon, sur mon compte Twitter d'auteur, c'est le seul réseau social que j'avais, en fait, j'avais même pas de Facebook auteur à l'époque. Un matin, je me rends compte que j'ai la directrice du livre de France Loisirs qui s'est abonnée à mon compte. Alors ma première réaction, c'était de me dire, bon bah il doit s'abonner à pas mal de comptes de primo auteurs pour essayer de découvrir éventuellement la pépite ou la perle rare. Et puis je vérifie les comptes auxquels elle est abonnée. En fait, elle est seulement abonnée à 4 écrivains. Et pour le coup, là je dis vraiment écrivains. Il y a Marc Lévy, il y a Guillaume Musso, il doit avoir Franck Pilier et le quatrième Guillaume Tonneau. Donc là, j'essaie d'envoyer un petit message perso assez drôle en lui disant, écoutez, vous êtes abonné à mon compte. Je me fais des idées, mais je me fais sûrement des idées. Et elle me répond un petit peu plus tard, très gentiment, en me disant, non, je voudrais vous lire. En fait, pour la petite histoire, elle était dans une salle d'attente, elle s'ennuyait, elle ne va jamais sur Twitter. Et elle est tombée par hasard sur le compte Twitter, donc le mien, d'un journaliste sportif qui avait écrit un roman policier, ça l'a complètement intriguée. Et bah, je lui ai envoyé un mois après, il me dit, écoutez, c'est un peu long, il faudrait le resserrer, mais ça me plaît beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé édité donc, aux éditions du 123, et donc à France Loisirs en avant-première. Pour la petite histoire, dans la petite histoire, je devais paraître en mars 2020, lors du début du Covid. Et comme j'étais un bon élève et que j'ai envoyé très vite mon texte remanié, et qu'un autre auteur qui était prévu en décembre 2019 était en retard, bah écoutez, je suis paru là, et alors que je sortais de nulle part, je l'ai vendu à plus de 20 000 exemplaires, donc voilà, quand je parle de conte de fées. Alors je parle bien de France Loisirs et pas de la librairie, hein, parce que même si depuis France Loisirs n'est plus ce qu'il était avec un redressement judiciaire, à l'époque il y avait encore environ 800 000 adhérents. Voilà, et donc il y a eu la sortie en poche très récemment aux éditions du 123. Donc c'est le livre qui m'a lancé en fait, et du coup les trois suivants sont... Donc, toujours paru en avant-première à France Loisirs et ensuite en librairie, mais maintenant ça va s'arrêter. Là, je cherche un autre éditeur pour le cinquième.
D'accord. Alors, Je mangerai ton cœur a été assez bien accueilli par la critique. Vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, puisque depuis, bah, trois autres romans sont sortis, dont le dernier, ADN, le 7 septembre 2023, toujours aux éditions du 123. Le Vincent Villa auteur est-il en train de prendre le pas sur le Vincent Villa journaliste?
Ah, mais je vais te cacher, c'est mon rêve. C'est clair que si je peux arriver à en vivre, je n'aurai aucune hésitation. Je dois avouer que je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à écrire des livres que dans mon métier où j'ai une petite usure, on va dire. Même si j'ai très bien conscience que je suis privilégié par rapport à beaucoup de personnes, mais c'est vrai que ça, dès que j'ai commencé, en fait, ça m'a dévoré la tête. Donc, je pense très souvent à mes bouquins. En fait, il n'y en a que 4 de paru, mais je suis déjà en train de terminer le 8e. Et si j'avais que ça à faire, je sais déjà de quoi je vais parler dans le 9e et dans le 10e. Quoi. Enfin voilà, quoi. Pourtant, je suis extrêmement content d'avoir fait journal sportif dans les journaux dont je rêvais, mais là, c'est vraiment la chose. Alors, j'arriverai peut-être jamais à être connu comme je le rêve, etc. Mais je sais que c'est la plus belle chose que j'aurais faite de ma vie.
Alors, votre dernier roman en date, le quatrième, ADN, H-A-I-N-E-S, est paru le 7 septembre 2023 aux éditions du 123. Pouvez-vous nous en quelques mots nous raconter l'intrigue sans trop en dévoiler quand même?
Alors, je vais essayer. Alors, moi, il faut savoir que je fais des intrigues façon série avec des histoires croisées, entrecroisées. Ça, c'est ma marque de fabrique. Donc là, d'un côté, on va dire, il y a trois policiers de la brigade criminelle de Versailles qui ont chacun un petit peu un cold case qui les hante. Et la femme de l'un des trois disparaît. Et son mari, donc, qui est un chef de groupe à la brigade criminelle de Versailles, va vite comprendre que essayer de résoudre sa disparition, il va devoir aider un de ses collègues, l'autre chef de groupe à la brigade criminelle de Versailles, à résoudre son propre cold case. Et là-dessus, on va partir sur des histoires de généalogie et de base de données génétiques. Voilà, pour vraiment dire en substance, parce que c'est compliqué d'en dire plus.
Alors, dans votre nouveau roman, il est question d'ADN, de génétique et de généalogie, vous disiez. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire un roman lié à ces sujets ?
En fait, pour remonter au premier, où je suis parti, je mangerai ton cœur, donc j'avais une histoire en tête de tueur en série. Alors, ce n'était pas très original, mais j'avais un tueur en série plutôt original, lui. Et puis, quand je l'ai eu écrit, je me suis dit, oula, si tu fais que des histoires, il y a juste des meurtres et qui les a commis, il peut vite te manquer en gros quelque chose. Et naturellement, comme je m'intéresse beaucoup aux thèmes sociétaux, aux faits de société, à l'évolution de notre société, ça m'a paru évident dès le deuxième d'adosser l'intrigue, de nourrir l'intrigue avec des thèmes. Le deuxième, par exemple, tourne un petit peu autour des sans-abri notamment. Le troisième, hashtag je suis Lily, ce sont les violences faites aux femmes. Et à un moment, je suis tombé sur ces histoires de bases de données, de généalogie, de personnes en quête de leurs origines, de personnes qui, grâce à l'ADN, pouvaient découvrir, et même pas retrouver, découvrir des pères ou des mères ou des demi-frères, des demi-sœurs qu'ils ne connaissaient pas. Il suffit d'ouvrir les journaux depuis quelques années pour tomber sur des histoires complètement hallucinantes, genre des personnes qui habitent sur deux continents différents et qui se retrouvent, enfin... Et là, je me suis dit, mais attends, là, tu peux faire un truc vraiment avec l'ADN, les bases de données, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je suis parti là-dedans et ça m'a fasciné parce que, en fait, moi, ce que j'aime et ce que j'essaie de faire modestement, c'est apprendre plein de choses et essayer d'en restituer un petit peu au lecteur sans que ça devienne une encyclopédie. Et là, j'ai appris plein de choses. Après, j'essaie vraiment de me blinder. J'ai été relu par un docteur en généalogie, quelqu'un qui est vraiment une sommité dans son secteur. Et voilà, vraiment, je me suis éclaté, quoi.
Alors, il faut beaucoup de rigueur pour aborder des sujets ô combien importants et pas faciles d'accès, hein, comme l'ADN et la génétique. Elle est la même, la rigueur, que ce soit pour écrire un article sur le football ou pour écrire un roman.
En tout cas, c'est le parti pris que j'ai. Alors, comme je suis journaliste à la base, ça a été facile, mais oui, j'essaie de tout vérifier. J'essaie de faire des reportages, en fait, comme si j'étais pour mon boulot, c'est-à-dire me rendre au maximum sur place, en fonction de mes moyens, évidemment, parce que parfois, ça n'a pas d'utilité ou parfois, ça serait too much, mais j'essaie vraiment, oui, de faire la même chose. Franchement, si quelqu'un me dit « j'ai pas aimé votre livre », ça va pas me chagriner, enfin, en chouillant, mais on peut pas plaire à tout le monde. Par contre, si quelqu'un se plante devant moi dans un salon et me dit « là, page 140, il y a une énorme erreur », là, ça va vraiment m'embêter. Donc voilà, j'essaie vraiment de tout vérifier en sachant que comme je fais un petit peu des pavés de 500 pages qui tournent autour de 830 000 caractères, je ne suis pas à l'abri d'une erreur ou deux. Voilà, hein, ça serait vraiment prétentieux de dire je fais zéro erreur, mais j'essaie vraiment de me poser toutes les questions possibles, de tout vérifier, d'appeler toutes les personnes possibles. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, je me fais un petit réseau de policiers scientifiques, etc. Donc voilà, j'essaie. Bon. Jusque-là, j'ai jamais eu des retours vraiment où l'on m'a dit « ou alors, il y a une énorme erreur ». Ça me va bien.
Est-ce que vous avez des policiers, des policières auxquels vous faites toujours appel pour vérifier la véracité de vos enquêtes policières ou à chaque fois, vous recherchez les services liés à vos histoires ?
Alors, j'essaie de rechercher plutôt des services liés à mes histoires, en effet. Après, ce n'est pas toujours évident. Hein. ADN, j'ai eu la chance de sympathiser avec... quelqu'un de haut placé à la brigade criminelle de Versailles qui maintenant n'y est plus, qui est devenu responsable de service départemental de police judiciaire et qui m'a gentiment relu. J'essaie, le troisième ADN, pareil, il se passe à l'ex-CRPJ Toulouse, on les appelle plus comme ça maintenant, mais c'est un ancien du SRPJ Toulouse qui m'a relu, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment important parce que je n'écris pas seulement pour les policiers. Mais bon, c'est quand même une caution si la personne vous dit bon voilà, il n'y a rien de vraiment complètement hors procédure, hors norme, même si après on reste avec du roman ou on veut des rebondissements, etc. C'est une fiction, mais voilà, qui reste quand même dans le clou. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire.
Est-ce que c'est facile pour un romancier, journaliste de surcroît, de se faire accepter dans les milieux de la police? On vous ouvre facilement les portes?
Franchement, J'ai eu des difficultés pour rentrer à la brigade criminelle de Versailles, où là vraiment j'ai dû faire, alors c'était mon petit réseau policier déjà de l'époque, c'est quelqu'un de très haut placé dans la police qui m'a introduit, sinon je pense que je n'y serais jamais arrivé. Et sinon le reste du temps, j'y suis arrivé de moi-même, et c'est vrai que même si la police est beaucoup féminisée, c'est le hasard, c'est vrai qu'à chaque fois je suis tombé sur des interlocuteurs qui étaient des hommes, et dès que vous leur dites journaliste sportif à l'équipe, ça fait tilt. C'est vrai que c'est un bon passeport pour rentrer, quoi.
Alors, depuis 2018 et la sortie de votre premier roman, vous êtes invité dans des salons et des séances dédicaces. Vous aimiez aller à la rencontre des autrices et des auteurs avant d'être de l'autre côté de la table?
Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Je n'étais pas du tout dans la recherche du livre dédicacé, de la rencontre avec l'auteur, même s'il y a des auteurs que j'adorais, que j'adore encore. Ça a été une découverte quand j'ai commencé chez France Loisirs. Évidemment, il y avait les boutiques France Loisirs, mais très vite, j'ai eu la chance qu'il y ait un salon organisé par France Loisirs à Lyon, un salon du polar et du fantastique, où on était 15 à 20 auteurs, beaucoup, beaucoup de Lyon et de la région. Xavier Massé, Sébastien Julien, beaucoup d'auteurs comme ça. Et là, j'ai fait « Waouh, c'est génial !» Rencontrer les lecteurs, discuter avec eux, et malheureusement, 3 mois après, il y a eu le Covid qui a fait tomber à l'eau pendant un an et demi, 2 ans, beaucoup de salons, et j'étais vraiment impatient que cette période passe, et franchement, depuis je m'éclate, quoi, j'arrive à en faire 9-10 par an, et ouais, ce sont vraiment de belles rencontres à chaque fois.
Alors, ça fait quoi d'être de l'autre côté de la table? Vous êtes forcément à l'aise?
Oui, ça va, franchement. Je suis plutôt réservé de nature, mais dès qu'il s'agit de mes livres, ça va. Je suis journaliste, mais j'aurais pas pu faire de la télé ou de la radio. Vraiment, je pense que je n'aurais pas été à l'aise. Mais dès qu'il s'agit de parler de mes bouquins, j'ai même fait une télé une fois où j'étais un peu stressé au départ, mais après, j'étais bien, j'étais tranquille. Donc, mais franchement, en général, ça m'est arrivé une fois qu'un lecteur se plaint devant moi en me disant « j'ai pas aimé votre livre », je suis désolé. Mais en plus, 99,9% du temps, ce sont des gens qui viennent vous dire des gentillesses. Donc, voilà.
Alors,
il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Non. Est-ce que c'est plus simple d'avoir des retours sur vos romans que sur vos articles?
Alors, je vais vous dire, en général, sur les romans, ce sont des retours positifs. Et en général, quand on a des retours sur les articles, ce sont des retours négatifs. Les gens, ils savent seulement vous appeler, vous envoyer des messages parce qu'ils ne sont pas contents d'un papier. C'est plutôt ça. Hein.
D'accord. Alors, lorsque vous écrivez dans l'équipe, quelque part, vous pouvez vous cacher derrière votre écriture. Avec vos romans, c'est plus difficile. Vous aviez envie de plus de reconnaissance que celle qu'on peut avoir lorsqu'on est journaliste?
À partir du moment où on rêve d'en faire son métier, c'est sûr qu'on cherche de la reconnaissance, mais je me sens pas frustré en manque de reconnaissance dans mon boulot. Vous voyez, je travaille à l'équipe, il y a l'équipe 21, la chaîne, et franchement, il y a des collègues qui sont quasiment tous les jours. Mais moi, je recherche absolument pas cette exposition, je ne m'y sentirais pas à l'aise, donc je suis pas en manque de reconnaissance, mais enfin, je suis comme beaucoup de gens, quoi. C'est un kiff absolu d'écrire un bouquin, d'arriver à en vendre quelques milliers d'exemplaires, de gagner des prix comme ça m'est arrivé pour « Je mangerai ton cœur » et ADN, ouais. Il n'y a pas mieux, quoi. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est au-dessus de mon boulot. Alors, c'est mon boulot qui me fait vivre encore. Hein. Je suis lucide. Mais ouais, c'est au-dessus, largement au-dessus.
Alors, si le premier et le quatrième roman sont plutôt des polars, le deuxième, Paradiction et hashtag Je suis Lily, sont arrangés plutôt du côté des thrillers, si je ne me trompe pas trop. Entre les deux, votre cœur balance?
Non, alors je ne veux pas vous contredire, mais en fait, ils sont tous pareils parce que c'est un mélange de polars et de thrillers.
Ouais.
Il y a toujours une enquête de police. Et à côté, il y a les aspects thriller avec les gens comme vous et moi qui sont aux prises à des situations assez hors normes. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire. Je ne vois pas l'un sans l'autre, aucune enquête de police ou qu'un thriller. Parce que pour moi, un thriller, il manque quand même l'aspect officiel, l'aspect enquête, l'aspect policier. Ça balance bien comme ça pour moi.
Ouais. Est-ce qu'un roman noir pourrait faire partie de vos prochaines vies d'écriture?
Peut-être qu'en ces cas, il y aura un thème sociétal qui se prêtera plus à un roman noir, mais pour l'instant, non, je pense que j'ai pas fait le tour.
Alors, vous qui êtes journaliste sportif et du monde du ballon rond en particulier, auriez-vous envie d'écrire sur le sujet, comme l'a si bien fait d'ailleurs Vincent Raduro récemment? Il y a sûrement plein d'histoires inspirantes que vous connaissez.
Non, parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais un petit peu, ce qui m'a notamment lancé pour redémarrer dans l'écriture personnelle, c'est que j'avais une certaine vision de mon boulot et je ne me verrais absolument pas faire un thriller ou un polar autour du sport. Par contre, j'adore les personnages sportifs et par exemple, dans Hashtag Je suis Lily, mon héroïne, c'est une boxeuse. Donc, je ne m'en éloigne pas à 100%, mais je ne me vois pas faire un truc sur... sur la corruption dans le sport, ou l'hooliganisme, ou je sais pas quoi. Donc, c'est mon évasion, en fait, du quotidien, du boulot, de plein de choses.
Vous êtes toujours un boulimique de lecture ?
Non, justement, non, parce que comme je suis plutôt un boulimique d'écriture, maintenant. Donc, de temps en temps, j'ai des petites respirations, mais j'ai du mal à m'arrêter. Dès que je finis un manuscrit, j'entends le suivant. Et c'est d'autant plus frustrant, pardon, qu'en faisant des salons, je rencontre plein d'auteurs que je ne connaissais pas. Et ça me donne envie de les découvrir. J'achète des bouquins de temps en temps, donc je n'ai pas une pile à lire énorme, mais voilà, on peut pas tout faire, ce sont des choix. Si un jour je ne fais plus qu'écrire et que je n'ai plus mon boulot, j'aurai un petit peu plus de temps pour lire à côté.
Vous pourriez écrire un roman qui se passerait dans le passé ou dans le futur ?
Dans le passé, non. Parce que, comme je vous disais, j'aime beaucoup les thèmes sociétaux vraiment actuels, ancrés dans notre vie. Pourquoi pas un roman dystopique, j'ai pas lu des romans comme ça, je sais qu'il y en a, j'ai vu des films comme ça et ça pourrait me plaire de se projeter dans un futur assez proche, mais quand même dystopique. Oui.
Donc, vous disiez, vous êtes en train d'écrire votre 8e, 9e roman, 8e, je ne sais plus.
8e,
oui. Donc le prochain, sans trop en dire, hein, le prochain parlera de quoi ? Ou parlerait de quoi ?
C'est compliqué de vous dire parce que c'est un thème qui a quasiment pas été abordé dans les thrillers, donc ne m'en veuillez pas, mais je vais le garder pour moi.
Bien. De toute façon, il est
écrit, il a été envoyé à plusieurs maisons d'édition, donc j'attends impatiemment les réponses.
D'accord. Bien. Alors, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les 4e. Couverture, nous cherchons la même aventure sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances de dédicace. Vincent, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Je pense que ça serait le dernier Céline Dungeon. Ah, par contre, j'ai un trou de mémoire. C'est Châtiment, je crois. Excusez-moi. Comme je vous disais, j'aime beaucoup cet auteur et qui traite de sujets sociétaux à chaque fois. Donc, ça, c'est celui-là.
Bien. Alors, côté sortie, notons. Moi, j'ai noté le livre d'Olivier Besancenot et Michel Lowy, Septembre Rouge aux éditions Textuelles. Le polar de Nicolas Feuze, Le philatéliste aux éditions Rosiane Wolf. Le nouveau thriller d'Olivier Ball, La Meute aux éditions XO. Le dernier thriller d'Amélie Antoine, Un enfant sans histoire aux éditions Le Muscadier Noir. Et le dernier roman de Clarisse Sabar, Le secret des agapantes aux éditions Charleston. Pour terminer l'émission, les dates des séances de dédicace. Vincent, des séances de dédicace à annoncer de votre côté ?
Alors, le 18 mai, je serai à côté de Bordeaux pour les Picopètes du Pola. Le 18 mai, et une semaine plus tard, je serai à côté de Valenciennes pour un salon aussi spécialisé dans le Pola. C'est ce que j'ai de plus proche. Après, il faudra voir après.
Bien. De notre côté, dans la région proche, le samedi 27 avril, il y a au Domaine Luquet à Fuissé, en Saône-et-Loire, un festival que vous connaissez, enfin un salon que vous connaissez, c'est le Cépage Noir. Il aura lieu de 10h à 18h avec Alexis Leipsker, c'est le parrain, Nicolas Nuten, Anouk Schutterberg, Gérard Coquet, Yann Manouk, Elias Pechkoman, René Manzor, Isabelle Villain, Gérard Sarian, Ophélie Cohen, Sébastien Boucherie, Colline Gattel, Christophe Royer, Xavier Massé, Nicolas Feuze et Yvan Zingberg. Cépage Noir, c'est un bon souvenir pour vous ?
Oui, complètement. J'ai eu le bonheur d'être invité l'an dernier. Déjà, le mariage du vin et du livre, c'était assez bien, je pense. Des organisateurs sympas, un bon moment. Donc, je recommande aux grands lecteurs de polar et de thriller du coin d'y aller, ils ne seront pas déçus.
donc toujours le samedi 27 avril, à la FNAC à Bourg-en-Bresse, il y aura Luc Charin de 10h à 18h. Le samedi 4 mai, à la librairie Buffet à Oyonnax, il y a Dominique Esner et Gérard Cambier pour leur livre Maquis de Lin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. À la librairie Récits Musique Jeunesse, Gérard Coquet de 15h à 18h. À Auchan, à Caluire, Luc Charin de 10h à 18h. Et les mercredis 8 et jeudi 9 mai, à la ferme de Pérouges, c'est le salon du livre avec Luc Charin, Victoria Vermel, Bernard Courtebras, Didier Jacquin, Iris Thomas, Véronique Monloup, Jean-Fred et Thierry Deray de 10h à 18h. Donc, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Vincent Villa, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'était un grand plaisir. Merci à vous, Michel.
Un plaisir partagé. Rappelons que votre quatrième roman ADN est paru le 7 septembre 2023 aux éditions du 123. On peut se procurer où, sans oublier vos trois précédents romans?
Oh, il est sur toutes les... Alors, pas dans toutes les librairies, évidemment, mais sur toutes les grandes plateformes, Fnac, Amazon, Bessie. On peut facilement le commander, il n'y a pas de souci. Tu auras, pas de problème.
À noter que votre premier roman, donc Je mangerai ton cœur, est aussi sorti au format poche le 20 mars 2024.
Exactement.
Voilà, aux éditions 123, du 123. On peut suivre votre actualité via sur les réseaux sociaux?
Complètement, Vincent Villapolar, il y a Facebook et un Instagram.
Bien. Le prochain invité de Roman de Gare, figurez-vous, le jeudi 9 mai 2024 à 18h30, sera le romancier isérois Xavier Massé.
Ah, ben, que je connais.
Voilà, donc il a sorti le 7 septembre 2023 son cinquième roman, La route du lac, aux éditions Tornada. Vous l'avez déjà lu, Xavier Massé?
Oui, j'en ai lu un. Par contre, j'ai plus que titre en tête. Ça doit être l'avant-dernier. J'avais bien aimé, oui.
30 secondes, peut-être?
Non, celui d'avant.
D'accord, c'est celui d'avant. Ok. Donc, l'histoire du roman de Xavier Massé. À Blache, au lendemain d'une soirée, trois étudiants sont portés disparus. Que s'est-il passé cette nuit-là? Que s'est-il passé sur l'unique route qui mène au lac? Amis, voisins, connaissances, pour les enquêteurs, tous sont suspects. Voilà, c'est un très bon roman que je vous recommande. Eh bien, Vincent, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Merci beaucoup.
Bonne lecture, bon salon. Et puis, à bientôt sur Radio B.
Ça marche. Merci encore.
Au revoir.
Au revoir, Michel.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.